Troisième enregistrement de la séance 10 du cours M4 MA001 Histoire culturelle de l'Occident contemporain. Troisième enregistrement consacré à la deuxième partie de cette séance qui va porter sur les mondes de l'art avec deux sous-parties. D'une part, l'examen de quelques cas nationaux et deuxième sous-partie, le cas français. Alors, première sous-partie, à l'étranger, dans les années 1970, on voit un certain nombre de changements dans les références, dans les esthétiques privilégiées par les artistes les plus en vue. Le postmodernisme, dans l'architecture comme dans les arts plastiques, marque d'une certaine façon la fin des avant-gardes, de l'innovation, de l'utopie en matière d'urbanisme ou de création plastique, avec le retour à des supports, à des formes plus classiques, la valorisation des références, des réappropriations, qui ont pour conséquence un plus grand éclectisme dans les références, notamment en architecture, ou en design, avec des figures comme Riccardo Bofill, Renzo Piano en architecture, ou Garouste, Peduzzi dans le design. Le développement de ce qu'on pourrait appeler, dans ce qu'on appelle d'ailleurs les arts multiples, les œuvres d'art à tirage multiple, de la photographie et de l'art vidéo, caractérise aussi cette ère que Catherine Millet définit comme celle de l'art contemporain, caractérisée par son rapport à l'actualité, sa transgression, sa transmédialité. Alors aux États-Unis, l'opposition à la guerre du Vietnam, qui continue jusqu'au milieu des années 70, nourrit de nouvelles formes de contestation qui mêlent revendications politiques, culturelles et esthétiques. Le refus d'un diktat de l'image conduit certains artistes à proposer des œuvres conceptuelles ou prenant la nature comme élément. Alors, le Lamb Art, par exemple, s'il n'est pas directement politique, est au diapason du mouvement écologique des années 70. La référence à un supposé naturel envahit également la mode, portée par des revendications ou un mode de vie hippie, par le combat des minorités. Cette tendance reflète l'adoption à l'échelle internationale d'un style casual sur lequel se fonde la puissance de l'industrie américaine de la mode. Les années 60 à 80 voient aussi l'essor des arts féministes, l'affirmation des femmes qui prend plusieurs formes. Elle passe avec le textile arts par la redécouverte d'artisanat dit féminin, l'appropriation de matières associées à l'univers domestique. L'art féministe propose aussi une réflexion sur les représentations culturelles de la femme. Je pense notamment au travail de la photographe Cindy Sherman, Sherman, qui se met en scène dans des parodies de films hollywoodiens. À la même époque, des artistes issus des minorités cherchent à traduire l'expérience de leur communauté. Une émancipation par l'art, débutée avant-guerre à Harlem, poursuivie après 1945 par certains artistes noirs, mais aussi latinos, chicanos, indiens ou asiatiques. La mobilisation des chicanos se traduit ainsi par le développement à San Francisco d'un nouveau muralisme inspiré du mouvement mexicain, donc latino et multiculturel. Le mouvement de libération gay et lesbien donne également naissance à un art contestataire dont la virulence s'accentue dans le contexte de la lutte contre l'épidémie de sida dans les années 80. Les deux stars de ce mouvement, Kate Haring et Basquiat, Haring Haring, Basquiat Basquiat, UIAT. Ces deux artistes sont issus des milieux underground de New York, dont ils reprennent l'esthétique graffiti. Ils s'inscrivent par leur utilisation de méthodes commerciales d'autopromotion dans la lignée d'un Andy Warhol, ce qui fait beaucoup pour leur célébrité étant due aussi à leur mort précoce, qui relance le débat sur la récupération par la culture mainstream des formes issues des contre-cultures. Leur succès traduit aussi la porosité croissante entre commerce et art dans un contexte de boom financier, d'explosion du marché de l'art, qui profite aux néo-expressionnistes, dont fait partie Basquiat par exemple, qui, en opposition à l'art conceptuel, vont réinvestir la peinture figurative. Et puis, les années 80, ça va être le moment d'explosion de nouveaux artistes. Je pense à Jeff Koons, par exemple, qui prend son envol à ce moment-là, dont les sculptures kitsch exploitent les représentations et les objets de la société de consommation, et qui symbolise parfaitement, presque jusque dans les pires excès, cette rencontre entre art, commerce et culture de masse. Au Royaume-Uni, la peinture de cette période des années 60, 70 et 80, enfin 70 et 80 plutôt, la période est dominée par quelques artistes figuratifs, hein, de manière là aussi significative, des gens comme Francis Bacon, Lucian Freud, Frank Auerbach, Léon Kossoff, David Hockney, qui forment, pour certains d'entre eux, Bacon, Freud, Kossoff, Auerbach, l'école de Londres. Tous ces artistes ont en commun de rejeter l'abstraction, de revendiquer la pratique d'une peinture figurative. Alors Bacon multiplie par exemple les grands triptyques avec des corps déformés, des chairs maltraitées, la thématique de l'enfermement. J'espère que vous avez eu l'occasion l'année dernière d'aller voir cette merveilleuse, cette formidable exposition au Bacon à Beaubourg, au centre Pompidou, où il y avait vraiment des toiles magnifiques, enfin, pour ceux qui aiment Bacon, bien sûr. Il y avait également eu peu de temps auparavant une très belle exposition Hockney, au même centre Pompidou. Hockney, qui après s'être inspiré du réalisme puis de l'abstraction, adopte un éclectisme stylistique associant pop art, peinture abstraite, figure expressionniste, classicisme, renaissance. Le retour en grâce dans le domaine de l'analyse littéraire, de notions que la théorie et la critique avaient récusées dans la période précédente, est l'un des plus spectaculaires, d'autant plus qu'il semble s'effectuer sous le patronage des grandes figures qui avaient dominé justement la révolution structurale ou structuraliste des années 60. Je pense notamment à Roland Barthes, qui avait proclamé la mort de l'auteur, hein, ni plus ni moins, en 1968, et qui édite en 1975 un Roland Barthes par Roland Barthes, 2 ans après avoir rappelé, contre la tentation scientiste et formaliste, le plaisir du texte, titre du livre, et 2 ans avant d'être l'objet à Cerisy d'un colloque tout à sa gloire. Donc, retour de l'auteur par celui qui avait proclamé la mort de l'auteur. Michel Foucault, de son côté, délaisse l'analyse des liens entre savoir et pouvoir pour celle du sujet. Et il entreprend au début des années 80 l'étude du souci de soi, comme il le dit, c'est-à-dire des actes que le sujet en quête de vérité entreprend sur lui-même. Svetlana Todorov, autre exemple, propose en 1984 une critique de la critique. C'est l'adieu aux structures et à la dialectique. Le sujet, l'auteur, l'acteur, la liberté, la morale, la fiction font retour dans le champ des sciences humaines, dont l'âge d'or par ailleurs s'achève, ne bénéficiant plus des tirages ni de l'attention médiatique qui étaient les siens au tournant des années 60-70, font retour avec également le biographique, l'analyse génétique des textes, à rebours d'un textualisme et d'un formalisme qui ne sont plus de saison. De même, constatons une perte de vitesse du théâtre expérimental ou de recherche dans les années 1980. C'est d'ailleurs au début de cette décennie que disparaît le Festival de Nancy, qui avait été si important dans les années 60-70. La mise en crise de la représentation, qui avait caractérisé la décennie précédente, se fige dans de grandes réalisations anthologiques ou se défait dans une poussière de mini-productions. Comme si cette tâche de la représentation se trouvait vidée de sa substance. Du côté des arts plastiques, c'est la peinture qui fait retour, et en France comme dans les autres pays que j'ai mentionnés tout à l'heure, on retrouve donc font retour la figuration, les règles du métier. Je cite ici Catherine Millet dans son livre sur l'art contemporain. Tout à coup, il sembla que l'on dit pouce. Sans doute y avait-il eu des signes avant-coureurs, mais ce fut surtout et symboliquement à l'ouverture de la décennie, en 1980, dans le cadre d'une section appelée Aperto, réservée à la nouvelle génération par la Biennale de Venise, que l'on vit arriver de jeunes artistes moins acharnés à faire reculer les limites de l'œuvre d'art qu'à redécouvrir des formes éprouvées, moins enclins à jouer les apprentis sorciers qu'à renouer avec le métier de peintre. Alors comment interpréter cette réhabilitation de tout ce dont l'époque précédente avait fait litière, avait rejeté? Est-ce un retour de balancier, un effet de génération, une restauration au sens idéologique du terme? Le scepticisme et les déceptions qui avaient ruiné en doute l'espérance révolutionnaire de mai 68 semblent frapper de la même suspicion les promesses de révolution formelle qui en étaient la traduction dans l'ordre des arts. Cette suspicion peut atteindre des formes extrêmes, comme dans le nihilisme du mouvement punk, rejetant jusqu'à l'idée de futur ou d'avenir, ou prendre le visage plus souriant d'un éclectisme et d'un relativisme esthétique que l'on qualifia de post-moderne, d'un terme initialement forgé dans le domaine de l'architecture. Pour Jean-François Lyotard, L-Y-O-T-A-R-D, qui sera l'inlassable promoteur de cette notion de post-moderne, de post-modernité ou de post-modernisme, la condition post-moderne caractérise l'époque nouvelle où la marche des sciences et des idées rend intenables les grands récits de la modernité, en particulier le récit du progrès, qui avait porté les espoirs d'un changement radical dans la société comme dans les arts et la culture. Contre des idées englobantes, totalisantes, voire totalitaires, des idées homogénéisantes, il s'agit désormais de reconnaître et de promouvoir la diversité des points de vue, l'hétérogénéité des normes, l'incommensurabilité des valeurs. Il ne faut plus songer à rompre avec le passé, ni même à le dépasser, mais à cohabiter avec ce qu'il nous a légué dans un rapport plus ou moins ludique à cet héritage, dans une sorte de coprésence, de synchronie, où ne l'emporte plus de manière décisive aucun courant désignant la direction à suivre. C'est peut-être la fin de l'art, comme Hans Belting en soutient la thèse en 1983, estimant que la création contemporaine a cessé de se définir dans un rapport contradictoire au passé. C'est en tout cas l'ère des post-avant-garde, des mouvements néo, cherchant moins à inventer, comme en son temps le nouveau roman, qu'à citer, comme le néoclassicisme en architecture. C'est également le temps de la rétrophilie, selon un terme utilisé par Pascal Horry, c'est-à-dire de la réhabilitation d'esthétiques surannées, désuètes, mais remises au goût du jour par des érudits, amateurs ou professionnels, parfois appuyés par la puissance publique. Ainsi de la redécouverte des peintres pompiers du XIXe siècle ou l'engouement pour la musique baroque sur instruments d'époque, bien entendu. Rien n'est plus éloigné de l'esprit des avant-gardes, dont Philippe Solers constate, mi figue, mi raisin, la mort dans une conférence de 1977. Le théoricien allemand Peter Burger, B-U-R-G-E-R, 3 ans auparavant, avait fait le même constat, ajoutant que les divers courants d'avant-garde étaient rentrés dans le rang, que leurs figures de proue ne cherchaient plus à échapper aux institutions, ni à l'institution art dans son ensemble, mais à y entrer et à s'en faire reconnaître. Un grand mouvement de récupération, de recyclage était engagé, que d'aucuns ont assimilé à un reniement, dont ont profité des plasticiens issus des ex-avant-gardes pour entrer au musée ou recevoir des commandes publiques. Je pense notamment à Daniel Buren, qui est l'exemple emblématique de ce basculement, figure éminente des avant-gardes les plus radicales dans les années 60 et qui devient dans les années 80, au cours des années longues, l'un des artistes les plus reconnus et soutenus par la puissance publique. C'est le cas en tout cas des artistes dont les œuvres étaient perçues par les décideurs comme les plus recyclables parce que les plus décoratives ou les moins engagées sur le plan politique. La nouvelle génération également de metteurs en scène formés à la déconstruction textuelle peut prendre de son côté la direction des structures nationales tandis que les tenants de la théorie littéraire conquièrent des positions de pouvoir à l'université. Donc tous ceux, ou en tout cas beaucoup d'entre ceux qui étaient les représentants des avant-gardes les plus radicales, les plus marginales, les plus expérimentales dans ces années 60, s'assagissent, ou en tout cas considèrent que Finalement, le temps n'est plus à la révolte ou à la remise en cause ou à la table rase de tout, et notamment des institutions, mais plutôt à leur conquête, à leur prise de pouvoir de ces institutions, ouvrant donc une nouvelle période hein, qui caractérise les années qui vont suivre, donc ces années 80. Voilà, je vais m'arrêter là donc à la fois pour cet enregistrement, pour cette séance 10 et pour le cours dans son ensemble, le cours sur l'histoire culturelle de l'Occident contemporain, puisque j'avais prévu d'aller donc jusqu'aux années 80, ce que je suis à peu près parvenu à faire au prix de quelques contorsions. J'espère donc que vous avez pu écouter ce cours dans de bonnes conditions, j'espère qu'il vous a intéressé, j'espère qu'il pourra vous permettre de finir, en tout cas de poursuivre votre réflexion sur ce thème. Encore une fois, et je l'avais déjà dit et je le repréciserai encore probablement dans des courriels que je vous enverrai, tous ces cours enregistrés sont des cours que j'ai proposés pour, encore une fois, parfaire votre apprentissage et votre réflexion, mais ce ne sont pas sur ces cours que portera les questions d'examen que je mettrai en ligne, hein, qui ne porteront que sur les cours que nous aurons vus ensemble à l'université dans le cadre des cours dans l'amphithéâtre. Donc c'est pour votre culture générale en quelque sorte que j'ai tenu à ajouter ces différentes séances et puis aussi dans une perspective de reprise des cours l'année prochaine, au moins ces cours seront-ils prêts. Voilà, donc encore une fois, bonne fin de semestre. Il me reste encore une séance sur l'autre cours que je pense pouvoir enregistrer et mettre en ligne demain. Et donc, a priori, en début de semaine prochaine, au plus tard, vous aurez l'intégralité de ces deux cours de licence. Donc, je vous dis à très bientôt.